Il y a un certain nombre de droits fondamentaux que Cassin, dans son brouillon, avait mis, brouillon qui date de 1947, puisque la commission, quand elle s'est réunie, Madame Roosevelt en était la présidente, Madame Roosevelt avait confié à Monsieur Humphrey, c'est un grand juriste canadien, le soin de rassembler tous les textes qui pouvaient intéresser la commission. Et donc, il a rassemblé toutes les déclarations préexistantes, mais il est remonté très loin dans l'Antiquité. Il a rassemblé aussi des textes d'origine grecque, par exemple, et tous les textes qui sont l'histoire de l'humanité. Et René Cassin a voulu, quand il a été chargé, après, parce que ce gros travail de 400 ou 500 pages n'était pas du tout utilisable par une commission, il a été chargé d'en faire un résumé. Alors il a fait un résumé, que j'ai ici d'ailleurs, d'une soixantaine d'articles. Et finalement, ça a été réduit à 30. Beaucoup d'articles ont été supprimés. Je vous engage à lire ce premier livre. Mais notamment, beaucoup de textes prévoyant la protection de la personne humaine dans toutes ses dimensions, y compris économiques, figuraient dans le brouillon de René Cassin, et il n'a été gardé dans la Déclaration universelle que un ou deux articles d'une forte importance maintenant, où on reconnaît les droits économiques et sociaux, mais Cassin en a voulu beaucoup plus. Quand on n'a pas vécu de grandes catastrophes, alors l'homme reste dans son coin, s'occupe de ses affaires, profite de la vie, et c'est parce que la Deuxième Guerre mondiale a été particulièrement atroce que les consciences, un certain nombre de consciences, se sont réveillées pour dire il faut faire quelque chose, il faut au moins établir une législation qui aurait pu condamner Hitler, par exemple.
Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions dont tant de millions d'êtres humains ont été victimes à travers les siècles et plus particulièrement pendant et entre les deux guerres.
Pendant la guerre de 14, il est cruellement blessé, il reçoit donc une grande blessure dans le ventre, dans le bras, et à un certain moment, il avait reçu l'ordre comme caporal d'aller s'emparer d'une redoute, pour ça qu'il était aux mains de l'ennemi, et il monte avec son escouade le long de la pente, et là il est fauché par une mitraille, et il reste là trois quarts de la nuit, dans sa blessure, et tout d'un coup il entend parler, il entend en dehors des râles des blessés, il entend marcher, alors il prend son gobelet militaire et puis il se met à taper des petits coups sur un caillou jusqu'à attirer l'attention de ces infirmiers qui passaient pour voir s'il y avait des survivants, et alors les types s'aperçoivent que Cassin est toujours vivant, ils le ramassent sur leur brancard et ils l'amènent dans une ferme un peu plus loin. Et Cassin gît là dans la cour, très sanguinolent. Et il y a un curé qui arrive et qui lui dit « Viens, je vais te donner l'extrême onction. » Et Cassin dit « Oui, mais je suis juif, moi, je ne suis pas catholique. » Alors le curé lui dit « Mais ça n'a aucune importance, je veux t'aider quand même. » Et Cassin accepte évidemment cette aide. Et il se retrouve tout d'un coup entre les mains de ce curé en imaginant que non, c'est pas vrai, les religions ne sont pas ennemies, quand l'homme souffre, au contraire, elle se rapproche. Et donc, la sainte accepte la bénédiction du prêtre. Mais il ne meurt pas, et contre toute attente. Et même, il est mis dans un train, parce que à la guerre de 14, le gouvernement français, je pense que c'est plus la même chose aujourd'hui, avait décidé que s'il y avait des blessés, les blessés devraient être soignés dans leur hôpital d'origine. Quelqu'un étant niçois, c'est donc à Nice qui devait être soigné. En réalité, à Antibes. L'hôpital d'Antibes était celui où il avait été affecté au cas où il serait blessé. Et donc, on sent le soigner, on le met dans le train. Et dans le train pour Antibes, pour venir de la Marne en 1914, en septembre 14, alors qu'il n'y a qu'une seule voie, que les trains sont en bois, enfin les wagons sont en bois, c'était absolument impensable d'imaginer qu'ils pourraient survivre à un tel voyage qui a duré plus d'une semaine. Et parce que le train qui rapatriait les blessés n'était absolument pas prioritaire. Les trains prioritaires, c'est ceux qui montaient au front et qui amenaient de la chair fraîche. Et donc Cassin a mis un temps fou à rentrer à Antibes, et quand il est arrivé à Antibes, par un hasard, je ne sais pas lequel, sa maman qui était à Nice a appris que son fils était, par le régiment je crois, a appris que son fils était à l'hôpital d'Antibes, elle est venue tout de suite rencontrer le médecin-chef et lui dire « Attendez, c'est mon fils, c'est mon fils !» Et le médecin-chef, qui était le docteur Holmer, je crois, dit « Ben, écoutez, je suis désolé, mais dans un tel état, tu ne vas pas tarder à mourir. » Et la maman d'Olé Cassin insiste avec une force très grande auprès du médecin, en lui disant, mais écoutez, opérez-le quand même, s'il doit mourir, il mourra, mais qu'au moins on ait tout fait pour le sauver. Et le docteur Holmer opère René Cassin, et René Cassin survit. Et l'idée de créer un triptyque qui déclarerait d'abord les droits, et puis ensuite des pactes qui seraient signés entre les nations pour arrêter les criminels, et puis un tribunal universel pour les condamner, c'était la façon pacifique que Cassin avait imaginé d'ailleurs à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que tout ça ne se reproduise plus. Alors, pour l'occasion, nous voici promis à étudier les droits de l'homme. J'ai lu quelques textes très vite, et puis j'ai acheté un petit magnétophone en me disant que peut-être ce serait utile pour enregistrer le grand maître. Et je me retrouve avec mon petit magnétophone devant sa porte. Alors, je frappe à la porte et j'entends un pas lourd qui se rapproche sur un vieux parquet grinçant, vous savez. Alors il me reçoit avec une mine vraiment affreuse et je lui ai dit, écoutez, je me suis trompé de jour, peut-être que ça ne vous convient pas, est-ce que je vous dérange? Vous savez, je suis en vacances maintenant, je peux venir un autre jour. Alors il me dit, non, c'est pas vous, c'est ma femme. Alors je lui dis, comment? Il me dit, figurez-vous que, effectivement, c'était sa première femme, qui était sa vraie femme d'ailleurs, gravataire et dans un fauteuil, elle ne bougeait plus. Et elle avait à côté d'elle un lampadaire. Et il me dit, c'est pas ma femme, c'est le lampadaire qui ne va pas. Il ne marche plus, alors elle ne peut même pas regarder le journal, elle ne peut rien faire. Alors je suis très embêté. Je dis, mais écoutez, monsieur le président, je suis un peu bricoleur. Si vous voulez, je peux regarder le lampadaire. Et on ne sait jamais, peut-être que je peux arriver à le remettre en route. Ah, il me dit, vous feriez ça? Je dis, écoutez, on va essayer. Alors il me ramène près de sa femme, qui était une vieille petite dame très mignonne, comme ça, et, que je salue bien sûr, et que je me rappelle avec beaucoup d'émotion. Et effectivement, c'était un vieux lampadaire à pied, avec un interrupteur à pied aussi, vous savez, qu'on appuie dessus, ça fait marcher la lumière. Alors je regarde et puis effectivement l'interrupteur était cassé. Alors je dis, écoutez, il y a un électricien en bas de votre maison, je peux descendre aller chercher un interrupteur, puis je vous le remplace si ça ne marche pas. Alors il me dit, ah mais oui, c'est une bonne idée, alors je descends, je cherche un interrupteur, je remonte et voilà, alors est-ce que vous avez un tournevis? Oui, non, pas de tournevis dans la maison d'un grand renovateur, mais on trouve quand même un petit couteau de peinture. Et il m'apporte ça, et voilà, je remplace l'interrupteur, et la lumière revient, et René Cassin renaît, il était très heureux de ça, et alors il me remercie très chaleureusement, il me prend, pardonnez-moi, il me prend par l'épaule comme ça, il me ramène à la porte, il me dit, bah, écoutez, merci beaucoup, c'était très gentil d'être venu. Et voilà, je me retrouve avec mon petit magnétophone devant sa porte, sans avoir pu parler des droits d'homme, sans avoir écouté quoi que ce soit de sa bouche. Et voilà, alors j'étais mari, évidemment. Et puis je me suis demandé ce qui s'était passé. Et je crois que ce qui s'était passé, c'était vraiment le fait de René Cassin lui-même. C'est-à-dire que, en fait, ce qui l'intéressait le plus, ce qui le touchait le plus, c'est la souffrance immédiate des gens. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui souffre là tout de suite, il faut l'aider, quel qu'en soit le prix. Et ce n'est pas maintenant, alors que cette personne a besoin d'aide tout de suite, qu'on va faire des conférences ou des réflexions profondes sur la mise en œuvre des droits de l'homme. Non, il fallait changer l'interrupteur. Et je crois que c'est ça, si vous voulez, c'est une des images qui me reste de René Cassin, à savoir cet homme qui trouve qu'effectivement le plus urgent c'est d'aider les hommes qui souffrent là, maintenant, ici. Et toute sa vie c'est ce qu'il a essayé. Mais dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide a commencé. Et c'est tout juste si on est arrivé, après 18 mois, à rédiger la Déclaration universelle, d'ailleurs amputée d'un certain nombre de principes qu'avait mis dans le brouillon René Cassin, enfin dans le premier jet René Cassin. Et ensuite, alors, les pactes ont mis 18 ans à être adoptés, ils ne l'ont été qu'en 1966, je crois. Le tribunal universel, on n'en a jamais vu la couleur. Donc ça veut dire qu'il y a des consciences qui se réveillent après les grandes catastrophes, qui savent quelles pourraient être les solutions, mais qui, à cause des États, des gouvernements, des souverainetés, n'arrivent pas à mettre tout ça en œuvre. C'était donc un homme très proche, quelqu'un qui a fait des études puissantes, évidemment, mais pas seulement juridiques. J'étais hier à Brest parmi les juristes et je me suis conclu à leur dire que les droits de l'homme, ce n'est pas seulement une question juridique. C'est une question juridique, bien sûr, puisqu'il s'agit de les mettre en œuvre et de savoir comment on fait pour punir ceux qui ne s'y plient pas, évidemment. Mais le contenu des droits de l'homme est beaucoup plus humain que seulement juridique. Parce qu'après tout, les grands dictateurs ont eu d'éminents juristes auprès d'eux. Hitler avait de très bons juristes. Et le droit ne suffit pas. Il faut que le droit soit nourri. Il faut qu'il y ait quelque chose dedans qui pousse l'ami juriste à s'occuper des droits fondamentaux et pas seulement du droit en général. Qu'avec ses béquilles, il va recommencer à enseigner le droit à ses étudiants à Aix-en-Provence. Et en se promenant dans la ville, tout d'un coup, il entend dans une boutique des cris qui s'échappent. Il rentre dans la boutique, enfin, il s'approche pour savoir ce que c'est. Et j'ai des gens, des anciens combattants blessés comme lui, qui s'engueulaient et qui se disaient que les rues étaient remplies de veuves et d'orphelins, que tout le monde mourait de faim, et comment on pouvait faire pour essayer d'aider ces gens-là. qui avaient donné leur papa, leur mari au pays. Et parce qu'effectivement, à cette époque, il n'y avait aucune loi de protection, ni de la veuve, ni de l'orphelin. Et Cassin entre là-dedans, il se trouve que c'était l'embryon de ce qui deviendra plus tard l'Union fédérale des anciens combattants. C'est la première fois que les gens qui ont été blessés dans leur chair se réunissent pour essayer d'obtenir du gouvernement des réparations. Il entre là et il se met à la disposition des gens, il met ses connaissances juridiques à leur disposition, et si bien que très rapidement, il prend un ascendant très fort dans l'association en question, et le voilà envoyé à Paris dès 1917 pour parler de l'obligation où la France devrait être de voter des lois de réparation. Et c'est Cassin qui est à l'origine des lois de réparation qui n'ont été adoptées qu'après la guerre en 1919. Seulement, c'est le premier geste tout à fait important d'un juriste qui pense que le droit doit être mis au service de l'homme et des souffrances immédiates de l'homme. Il ne s'agit pas de lutter contre quelque chose, il s'agit de lutter pour. Et ça, c'est très très différent et difficile. Donc René Cassin, bien qu'il ait eu fait de grandes études, avait une licence en droit, a commencé par une licence en droit, mais il a fait aussi une licence en histoire, ce qui est très rare chez les juristes, parce que et on trouve ça très, très rarement. Il était très intéressé donc par l'histoire humaine et par la souffrance humaine. Ce n'est pas un théoricien, c'est un combattant, un véritable combattant. Dès le début de la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler écrase ses voisins et prend le pouvoir en Europe et va étendre ce pouvoir si on ne l'arrête pas. Et quand il entend dire qu'un général rebelle est allé se retrancher à Londres pour essayer de mener la résistance, il se dit, mais c'est lui qui a raison. La guerre va être mondiale, et c'est pas la guerre entre pays, c'est la guerre contre l'homme, contre l'être humain, puisque Hitler met en prison ou dans des camps ses propres concitoyens. Donc ce n'est pas une guerre étrangère comme une autre, c'est une guerre de l'homme, des droits de l'homme. La Déclaration universelle est un beau texte, c'est un bon texte qu'on doit diffuser, faire apprendre à nos enfants, pour que de proche en proche, il y ait des gens qui soient mieux formés à ce que doit être le but d'un État. Quel est le but de nos États aujourd'hui? On n'est pas très, très sûr, c'est plus trop. Alors qu'en fait, le seul but de l'État, c'est de protéger les droits de l'homme, il n'y en a pas d'autre. Et tous les droits de l'homme, y compris les droits économiques et sociaux et culturels.